pour l'été. Restez informés et rockés. Nous sommes Boulevard 102.1. Gravel dans le retour.
S'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, 971-1021 pour nous rejoindre. Vous êtes à Boulevard C. Gravel dans le retour. Il fait beau, il fait chaud, vous avez le goût de faire de la route. Mais tabarnouche, le gaz est rendu cher. Puis quand même, Donald Trump dit que les pétrolières abusent. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un genre d'unanimité. Il a écrit un texte intéressant cette semaine dans le Journal de Québec sur le jackpot des pétrolières. On retrouve avec plaisir notre ami docteur en économie, Francis Gosselin. Salut!
Salut, Denis.
Hey, ça arrive pas souvent d'une année, là, mais je suis quasiment rendu pro-Trump. Là. C'est vrai que les pétrolières abusent,
arrête,
Francis.
C'est sa faute si le gaz est cher.
Ah, OK, mais là, s'il faut commencer à expliquer les raisons, là, je vais débarquer du train. Là. Mais qu'est-ce qui se passe présentement, Francis?
Ben, le gaz est cher, c'est ça qui se passe. Puis il y a des élections demi-mandat qui approchent aux États-Unis en novembre prochain. Donc là, M. Trump, qui n'est pas capable de mettre un terme au conflit en Iran et donc au détroit d'Hormuz, et donc on connaît cette cassette-là, je pense que je l'ai assez répété, il essaie de trouver des façons de faire baisser le prix de l'essence. Et donc là, sa dernière cible, ben c'est effectivement les compagnies pétrolières qui ont dévoilé leurs résultats là, il y a quelques jours. Puis, ben, c'est sûr qu'elles, elles bénéficient d'un prix du brut international qui est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était. Là, tu sais, ça a passé à 100, 120 $ le baril. Là, actuellement, c'est autour de 80. Mais ça reste, donc, eux, ils bénéficient de ça sans avoir aucun coût, là, c'est-à-dire sans avoir aucune problématique. Ils s'adressent surtout aux deux grandes entreprises américaines, là, ExxonMobil et Chevron, qui sont des entreprises qui ont presque pas d'activité au Moyen-Orient. Donc, tu sais, eux, ils ont tout le... En bon français, tout le upside des valorisations très élevées sur les marchés.
Ils ont pas l'argent du beurre, dans le fond.
Puis ils ont pas de coûts, ils ont pas de risques, ils ont pas d'investissement à faire. Fait que, tu sais, c'est comme si je te dis demain, je te donne deux fois ton salaire, tu fais la même job. Je vais le prendre, mais c'est sûr que pour les consommateurs, c'est un peu fâchant de savoir que, dans le fond, chaque cent que tu donnes actuellement, ben, elle se ramasse dans les poches des actionnaires de ces entreprises-là. Donc, c'est un transfert de richesse, on pourrait dire, mais qui nous affecte pas mal tous.
Moi, ce qu'ils m'ont dit récemment, puis ça va vraiment à contre-courant, ils m'ont dit « Tu fais la même job, mais on va réduire ton salaire.
Ouais. »
Fait que là, finalement, ils ont le gaz, puis ils ont l'argent du gaz, mais est-ce que les gouvernements doivent intervenir? Puis je pense que c'est encore en vigueur. Il existe des prix planchers là, pour protéger ces pauvres pétrolières. Faut-tu réussir à mettre un prix plafond à un moment donné? Puis je sais que tu n'es pas un grand fanatique de l'intervention gouvernementale, mais contre les pétrolières, quand ils abusent, y a-tu quelqu'un qui doit mettre son poing sur la table? Ou c'est juste
ben,
les lois du marché, dans le fond?
Oui, c'est ça. Puis je suis pas nécessairement. Pour moi, la solution, c'est pas nécessairement d'intervenir là, à la pompe, parce qu'effectivement, si on se met à magouiller là-dedans, là, il y a comme pas de fin. Puis là, c'est aussi beaucoup plus de paperasse pour les entreprises. Puis tu sais, c'est drôle. Là, ceux que je vise là-dedans, c'est les géants. Là, c'est les ExxonMobil, les Chevron, puis ceux qu'on connaît, Petro-Canada, Esso. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, notamment, là, beaucoup des détaillants, là, les voisins, puis les Sonic, puis les Francis, puis c'est beaucoup des petits opérateurs indépendants. Hein, puis c'est vraiment pas eux autres le problème. Là,
Francis, on va prendre l'exemple.
Une scène écart sur ton litre.
On va prendre l'exemple au Saguenay, que c'est un endroit où souvent le prix de l'essence va être le plus bas possible. Tu as tellement de petits détaillants qu'eux se disent ben on va arriver à faire déplacer les consommateurs chez nous. Ils vont acheter un café, une sandwich,
exact.
Trois chips, puis c'est de même qu'on va faire des marges de profit. J'ai une question sur le plan économique à moyen et à long terme. Est-ce qu'un prix de l'essence aussi haut, aussi longtemps, ça fait qu'à un moment donné, les consommateurs vont tellement avoir changé leur habitude que quand ça va devenir un prix normal, les pétrolières vont en payer le prix?
Ben oui, mais c'est plus long que ce qu'on pense. Tu sais, mettons, parce qu'on a vu ça là, dans les dernières années, le prix avait aussi augmenté là, significativement il y a quelques années. Puis bon, sur le long terme, éventuellement, les gens vont choisir peut-être un véhicule moins énergivore. Ils vont évidemment se tourner vers les véhicules électriques ou les véhicules hybrides.
Mais là, il y a des compagnies qui le font aussi. Là, tu sais, on voit de plus en plus de gros camions qui passent à l'électrique. Puis je trouve que ça, il me semble, ça va finir par paraître dans la balance. Là.
Sauf que j'ai comme l'impression qu'actuellement, avec ce qui se passe, tu sais, puis rappelons que la cause, c'est quand même Donald Trump.
Ouais.
Les gens s'attendent d'un jour à l'autre parce que ça se finisse, tu sais. Fait que est-ce que tu vas changer tes choix de vie, puis ton choix de véhicule, puis, tu sais, parier sur quelque chose d'autre? Quand tu penses que ça va durer peut-être juste encore 2 semaines ou 1 mois, probablement pas. Donc, c'est là où je te dis, c'est vraiment, faudrait vraiment que le pétrole se maintienne là, à, tu sais, 1,82 $ pendant au moins 1 an, peut-être plus, pour que vraiment ça ait un impact majeur sur les choix de consommation des gens. On le voit un peu, là, des gens qui sont un peu plus sensibilisés par ça. Puis, de toute façon, c'est dans l'air du temps, là, l'électrification des transports. Mais je peux pas dire que ça, là, comme cette hausse-là qu'on vit depuis le mois de mars, elle va pas à elle seule expliquer, là, comme des milliers et des milliers de personnes qui vont faire le switch. C'est sûr, encore une fois, tu sais, ça a un impact, mais c'est un impact qui est un peu négligeable quand même.
Juste pour boucler la boucle sur Donald Trump, Francis, est-ce qu'il a encore autant d'influence sur les marchés boursiers quand il dit quelque chose? Parce que ça fait depuis le début de l'été, presque depuis le début de l'année, qu'il nous dit le contraire de ce qu'il dit la veille, puis là, il revient sur ses affaires. Hey, j'ai tellement fait le saut quand on est revenu de vacances que dans la même semaine, on avait réglé le conflit en Iran, puis on avait repris le conflit en Iran. Est-ce qu'il y a encore une influence sur les marchés boursiers ou c'est une influence qui a été réduite parce que finalement, il dit n'importe quoi?
Ben, l'influence est effectivement moins grande, c'est-à-dire, tu sais, rappelons-nous le fameux jour de la libération, là, d'avril 2025, là, tu sais, qui avait pris quand même beaucoup de gens par surprise, puis dans les semaines qui avaient suivi, là, les marchés américains avaient perdu, là, tu sais, 10-15%, c'était vraiment l'hécatombe. Évidemment, on a repris cette valeur-là depuis, puis ça a même augmenté beaucoup depuis ce temps-là. Puis il y a encore des fluctuations, notamment en lien avec le conflit en Iran. Mais on dirait que l'amplitude est moins grande. Les gens, ils vont regarder plus par-delà la dernière niaiserie, la dernière affirmation, se demander, tu sais, c'est comme jouer aux échecs, on se demande 2-3 coups d'avance, là, finalement. T'sais, là, il annonce, je sais pas, un cessez-le-feu, mais demain, il va rebombarder. Puis là, il va sûrement redemander un autre cessez-le-feu. Fait qu'on on anticipe comme 3 cessez-le-feu d'avance. Puis là, on se dit où est-ce que ça va atterrir, mettons, le prix du pétrole ou la valorisation de telle entreprise. Donc oui, sa capacité à faire bouger les marchés est réduite, mais elle demeure quand même présente. T'sais, on l'a vu là, récemment au Canada, là, il va imposer des tarifs de 50% sur un paquet d'industrie. Ça doit d'ailleurs entrer en vigueur là, le 19 août. S'il va de l'avant, ça va faire quand même assez mal à beaucoup d'entreprises. Ça se pourrait qu'ils décident de pas le faire. Fait que, tu sais, si t'es un investisseur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu colles son bluff ou est-ce que tu vends en anticipation? Non. J'ai l'impression que tout le monde est un peu d'un pied d'un côté, un pied de l'autre. Puis ça fait que des fois, ça bouge moins que ce qu'on penserait, là.
On est avec Francis Gosselin, docteur en économie. L'autre sujet d'actualité économique qu'on voulait aborder avec toi, Francis, c'est, puis mon Dieu, ça fait quoi, 2-3 ans qu'on en parle puis qu'on dit sensiblement toujours la même chose, le marché immobilier de Québec. Et là, cette fois, c'est l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec qui nous dit que depuis le début de l'année, la valeur de revente des condos a grimpé encore de 7% dans l'agglomération de Québec. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Québec est encore à part dans cette espèce de bulle-là, alors qu'un peu partout au Canada et même à Montréal, le marché est en train de revenir un peu à la normale?
Oui, ben beaucoup de choses, évidemment. Là, on peut pas mettre le doigt sur une seule affaire, mais tu sais, déjà, Québec, historiquement, était moins cher que Montréal. Là, ce qu'on voit, c'est un effet un peu de rattrapage, de normalisation. Donc ça, c'est sûr que c'est la première chose. Par ailleurs, il y a eu à Montréal énormément de mises en chantier, surtout de condos et même trop de mises en chantier dans certains segments, certains secteurs. Fait que là, il y a carrément des propriétaires qui se retrouvent avec des appartements à louer qui n'arrivent pas à trouver preneur. Ça a tendance à avoir à mettre une pression à la baisse, alors que Québec n'a pas nécessairement vécu à la même hauteur ce phénomène-là. Je rappelle toujours que Québec, tu sais, c'est comme la ville, je pense au Canada, qui a le plus bas taux de chômage. Là, le monde à Québec travaille, gagne bien leur vie. Tu sais, je sais que c'est un petit peu plus difficile là, depuis quelques temps, mais ça reste, tu sais, vraiment là, au sommet de la pyramide. Quand les gens travaillent, quand les gens ils ont une job steady puis un salaire qui tombe aux 2 semaines, ben ils achètent des propriétés. Que forcément, ça, plus il y a d'acheteurs, plus ça met de la pression à la hausse sur les prix. Et donc, c'est sûr que là, il y a même certains qui commencent à dire que la ville de Québec inquiète, en fait, au niveau de l'abordabilité, comme on l'a dit il y a quelques années à Montréal, qu'il va vraiment falloir faire quelque chose. Puis, tu sais, Québec, contrairement à Montréal, qui a quand même intégré beaucoup de ces décisions-là, c'est très fragmenté. Tu sais, les gens habitent à Lévis, les gens y habitent à Stoneham. Tu sais, il y a comme beaucoup de décisions non coordonnées dans la grande région de Québec qui fait en sorte que ça peut pousser à une place, pas à l'autre. Et donc, cet équilibrage-là, il est difficile à trouver là, de manière parfaite, évidemment. Ça fait en sorte que effectivement là, ceux qui étaient déjà propriétaires ben sont super contents parce que ça a beaucoup augmenté, mais pour les premiers acheteurs c'est une game un peu plus compliquée là.
Effectivement, puis ceux qui veulent faire un coup vite à deux semaines du 1er juillet mettons, c'est tout un défi dans la région de Québec. Hey Francis, toujours intéressant, c'est un plaisir de te retrouver, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Bye-bye, à prochaine. Francis Gosselin, docteur en économie, que vous pouvez entendre, entre autres, du côté de LCN. Vous pouvez lire dans le Journal de Québec. Et si jamais vous passez dans le coin de Montréal, c'est au 99.5 que vous pouvez l'entendre. De temps à autre, on s'arrête pas longtemps. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.